12h30 sur Radio Chablais, l'heure de Plan Large. Et dans Plan Large aujourd'hui, Florian Barbet rencontre le vigneron et ancien syndic d'Yvorne, Philippe Gex, pour parler entre autres choses du projet Yvorne Grandeur Nature. Il faut noter que cet entretien a été enregistré avant que le gel ne s'abatte sur les cultures du Chablais. Vous l'entendrez dans l'entretien, Philippe Gex évoque ce risque saisonnier et s'en inquiète. Depuis, ce risque est devenu réalité puisque les derniers jours ont lourdement pesé sur les vignes de la région.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Philippe Gex.
Bonjour Florian.
Vous m'avez donné rendez-vous à Yvorne. Et d'Yvorne, on a pris une voiture pour aller dans un de vos vignobles, le fameux...
Clos du Croisé-Grillé.
Voilà, et lui, il est à Aigle. Hein.
Il est à Aigle, mais comme on le dit pour le château Yquem, on est contigu Yvorne.
Contigu Yvorne. ça, c'est un argument marketing.
Ah, naturellement.
C'est un peu votre vin de prestige. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté sur le site de la Pierre Latine, qui est votre domaine.
Ah, oui.
Mais il n'est pas d'Yvorne.
Il n'est pas d'Yvorne. Aigle est une appellation, et probablement l'appellation qui marche le mieux dans le Chablais, à cause d'un vin dont on taira le nom, mais que chacun reconnaît à cause d'un fameux lézard.
Voilà.
Et puis ce Clos du Croisé-Grillé est fameux parce qu'il est extraordinaire sur le plan géographique, extraordinaire sur le plan d'exposition. Et puis avec ce domaine, on fait partie de la mémoire des vins suisses qui répertorie les plus beaux domaines dans chaque région.
Donc ça, c'est un catalogue finalement des meilleurs terroirs.
Ouais, c'est des journalistes suisses alémaniques historiquement qui ont décidé de lister dans le fond dans chaque région un ou deux vignobles. Et nous faisons partie des deux vignobles du Chablais avec le Clos du Croisé-Grillé qui font partie de la mémoire des vins suisses.
Et Yvorne, parce que vous dites Aigle est l'appellation qui se vend le mieux. Yvorne, c'était quand même la carte d'identité en Suisse alémanique,
oui,
notamment.
Oui, tout à fait. Yvorne est un vignoble prestigieux et qui a encore une certaine renommée. Mais Aigle, depuis des générations, et grâce à la maison dont on terra le nom, Badou, bien sûr, qui a positionné Aigle sur la carte des vins suisses à cause de son fameux vin le lézard qui a une notoriété nationale évidemment, mais mondiale aussi, parce que c'est un des seuls vins qu'on retrouve à New York ou à Shanghai, ce qui fait qu'Aigle est aujourd'hui dans le Chablais probablement l'appellation la plus demandée.
Bon, on va parler de Yvorne Grandeur Nature, hein, ce projet ambitieux lancé il y a quelques années. On va voir où on en est. Avant ça, on revient un peu sur vous. Philippe Gex, vous avez abandonné la politique, j'ai regardé, ça fait presque 10 ans maintenant.
2015 exactement. Exactement.
Ouais. Ah ouais. Ça vous manque ?
Pas du tout, mais vous pouvez me poser une deuxième question, Florian.
Non, c'est comme Roger Federer, ça vous manque, l'US Open ? Non, ça va. Non, mais bon, c'est un bon souvenir quand même.
Oh, excellent souvenir. J'ai adoré être syndic d'Yvorne et j'ai adoré ne plus l'être.
Bon, on va garder cette réponse philosophique. Vous êtes recentré sur le métier du vin. C'était déjà votre métier avant, évidemment. Moi, quand je vous vois et que je vous rencontre, j'ai toujours l'impression que vous êtes dans ce terroir vaudois, la personne de référence. Vous êtes le couteau suisse, vous connaissez tout le monde. En Suisse, à l'étranger, les grands domaines, vous exportez, vous avez fait quelque chose pour ce vin vaudois de tout à fait considérable. Je le dis, vous allez faire le modeste, mais
je vais pas le faire. Je vais le dire.
Hein. Ouais.
Non, mais vous savez, Florian, un peu grâce à la commune, j'ai été syndic assez longtemps, j'ai eu des activités, j'étais gouverneur de la confrérie du Guillon, j'ai été juge au tribunal des mineurs, j'étais président de Terre à Vin, enfin bref, toutes ces diverses occupations que j'ai occupé pendant, je ne sais pas, 25 ans, ont créé effectivement certains réseaux dans tous les domaines, que ce soit politique, viticole, journalistique, qui aujourd'hui on donne quelques résultats, parce qu'on connaît les gens. Évidemment, quand on connaît les gens, et comme vous le savez, tout est plus facile.
Oui, mais quand on a un réseau, on peut l'utiliser pour soi, on peut aussi comprendre et on en tire bénéfice forcément, mais que l'union fait la force et qu'il faut jouer collectif. Vous êtes parti dans tous les pays du monde pour faire la promotion des vins vaudois, pas de vos vins.
Non, mais bien sûr, mais j'ai toujours pensé que l'important, c'était de boire du vin suisse. Et puis si par hasard c'était du vin vaudois, ce serait le Saint Graal. Et puis évidemment, si dans les vins vaudois on buvait de l'ivorne, si possible la pierre latine, évidemment, c'était gagné. Mais on est plus intelligent tous ensemble.
C'est l'inverse de la théorie à qui je ne donnerai pas de paternité, mais qui est assez classique. Hein. Je préfère mes voisins aux gens de ma ville, les gens de ma ville aux gens de mon pays, les gens de mon pays aux étrangers. Là, c'est l'inverse en fait. Je prends la globalité et puis je sais que comme individu, je vais en tirer quelque chose.
Mais bien sûr, et c'est dans le fond là, l'origine de ce projet Yvonne Grandeur Nature qu'on évoquera tout à l'heure. Vous savez, faire des efforts en termes d'environnement sur son domaine personnel, c'est assez facile. On prend les mesures, on décide, on le fait. Le faire sur l'entier d'une appellation, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'agit de convaincre le vigneron par définition. Est-ce que j'ose dire, peut-être comme les pasteurs, comme les agriculteurs, c'est des gens foncièrement indépendants qui n'aiment pas trop qu'on leur force un petit peu la main. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est évidemment plus intéressant quand on est tous ensemble.
Quand on est ensemble pour le faire. Bon, les vins suisses, hein, vous disiez, c'est plutôt pas mal de boire des vins suisses. On a toujours ce problème hein, du prix par rapport à la concurrence étrangère, de la taille aussi du terroir suisse, qui fait qu'on n'a pas les quantités pour abaisser les prix. Le virage de la qualité, maintenant, il est global en Suisse. Il s'est fait en Valais, il s'est fait dans le canton de Vaud. On doit miser là-dessus plutôt que sur la quantité.
Mais c'est la condition de notre survie. J'entends, on ne peut pas régater avec les vins du Nouveau Monde, les vins étrangers produits en grande quantité à vil prix. Donc on est condamné à occuper le sommet de la pyramide. Et c'est assez drôle de voir que finalement à l'export, puisque Florian vous en parliez tout à l'heure, nous exportons nous au Japon et aux États-Unis. Le domaine dans lequel on est aujourd'hui, le Clos du Creuset-Grillet, on va pas aborder d'aspect mercantile, mais si je vous vends une bouteille aujourd'hui, elle coûte 32 francs. À Tokyo, ils la revendent 140. Mais ça pose pas de problème majeur. Donc on mesure aussi à travers l'exportation de nos vins l'image de la Suisse à l'étranger. Et on a une image pour l'instant extraordinairement qualitative.
Mais justement, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif hein, quand on a compris cette théorie qu'on devait miser sur la qualité et la clientèle locale parce qu'on n'a pas les quantités pour faire de l'exportation à grande échelle. C'est tout de même important de garder quelques points d'exportation comme ça pour l'image, comme vous dites.
Ah mais absolument. Moi j'ai toujours pensé qu'on devrait idéalement exporter 5 à 10% de nos vins à l'étranger. Pourquoi 5 à 10% ? Ça permettrait en permanence de soulager le marché suisse. Et le marché suisse, c'est très compliqué. On a vite trop de vins.
On n'en
a vite pas assez. Ça a un problème évidemment tout de suite sur les prix, sur les volumes. C'est très compliqué. Si on sortait de la Suisse un certain volume, parce qu'on est toujours... Je ne suis pas tout à fait sûr des chiffres, mais je pense qu'on exporte toujours 1% de notre production ou 1,2%. C'est tout à fait confidentiel, donc ça n'a pas d'impact. Si on arrivait à exporter ces 5 ou 10% dans des pays qui sont remarquables sur le plan de l'audience, je pense d'abord à la France, mais c'est vraiment le pays le plus compliqué pour exporter.
Le plus difficile
Les États-Unis ou le Japon, qui sont friands de nos vins. Je ne sais pas si vous êtes amateur de sushi, Florian, mais magnifiques sushis, il n'y a qu'un vin qui va bien, c'est le Chasselas. Et à Tokyo, il y a un 3 étoiles, un 3 macarons Michelin qui ne vend que du Chasselas vaudois.
Ouais.
Parce qu'il a découvert ça avec ses sushis et c'est mille fois mieux qu'un vilain traminaire odorant ou un Sauvignon du Sud qui sent la traverse de chemin de fer.
Ou un sac étienne. Non, parce qu'on ne va pas entrer là-dedans. Bon, mais il y a quelque chose... est-ce qu'on existe ? Est-ce que les vins suisses existent sur la carte du monde ?
Alors, comment vous répondre le plus honnêtement possible ? Non, ils n'existent pas. Mais si on se le répète à l'envi que nous n'existons pas, évidemment,
on n'aura
pas de succès.
Jamais, ouais.
On se rend compte assez facilement lorsqu'on va à l'étranger. Moi, je l'ai fait très souvent avec l'Office des vins vaudois, avec Pierre Keller, qui reste dans nos mémoires comme le type le plus formidable que le canton ait connu. Eh bien, on se rend compte qu'à l'étranger, nous avons du succès. Mais il ne faut pas faire le Suisse qui attend que ça se passe les mains dans les poches. Je ne vais pas vous citer une plaisanterie de mon vieux copain Raoul Cruchon à propos des gens qui ont les mains dans les poches, mais néanmoins c'est ça, on est un peu attentiste, on est un peu mou du genou. Si on fait l'effort d'y aller, de le faire, ça marche assez facilement.
Ce genre de réaction intéressante est très sympathique, hein, qui est l'étonnement positif,
mais
c'est
oui,
bien
et puis,
ça.
Je dois avouer que si on va assez loin de la Suisse, je ne vous parle pas des pays environnement, mais si on va aux États-Unis, au Japon, en Chine, l'image de la Suisse est quand même extrêmement flatteuse. On sait que c'est un petit pays, qu'il est montagneux, qu'il y a des coteaux, c'est difficile, on sait que la vie est chère en Suisse. Le consommateur final, il s'attend à payer un certain prix. Alors qu'évidemment, si on va chez nos amis de Savoie, qui connaissent la Suisse, etc., ils sont un peu étonnés qu'on vende un Chasselas à 30 francs, alors qu'on peut trouver de modestes vins blancs étrangers à 3 ou 4 francs dans la grande distribution.
Donc il faut garder ces éléments extérieurs. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait dans le canton de Vaud avec l'office des vins vaudois. Ça devrait être plus large encore. Swiss Wine, ça marche ?
Oui, non, mais il y a des efforts méritoires. Vous avez vu que les chambres fédérales ont admis un crédit supplémentaire pour valoriser l'exportation des vins. Donc ça bouge.
Oui, à chaque fois, on dit que ça correspond à des cacahuètes par rapport au seul crédit que l'Italie offre à ses vins.
Alors, bien entendu, c'est ce que l'Italie met à disposition pour le marché suisse. Les Autrichiens font un boulot épatant en exportation sur le plan privé, mais aussi sur le plan de l'État. Mais il faut arrêter de se plaindre. Je reste un vieux libéral. Je suis pas fou de l'intervention de l'État dans tous les domaines. Mais dans ce domaine-là de l'exportation, je crois que l'État nous soutient à présent efficacement. Mais c'est surtout à nous, c'est de l'entreprise privée. Et puis surtout, si on veut exporter, on doit exporter ce qu'on a de meilleur et pas de ce qu'on a de moins bon. C'est comme le tourisme, j'entends. On montre ce qu'on a de mieux. Imaginez d'exporter du Chasselas à 4 francs la bouteille au Japon, ça n'a pas de sens. Il y en a des bien meilleurs et des moins chers.
Bon, on va passer une large partie de la deuxième partie de cet entretien à parler de grandeur nature, mais on va peut-être y aller avec un dernier angle. Hein. On a abordé l'aspect commercial du monde du vin suisse. Y a l'aspect climatique, environnemental. Vignoble grandeur nature va y répondre. Le climat, ce fameux Chasselas là, il va tenir combien de temps avec un climat qui se réchauffe ?
Alors écoutez,
parce qu'il est parfait pour nos latitudes, mais si ça se réchauffe.
Aujourd'hui, il est parfait pour nos latitudes. Il y a des cépages qui sont moins parfaits. Je pense en particulier au Pinot Noir qui a une maturité excessive la plupart du temps. Donc on doit se poser des questions sur l'encépagement. Pour le moment, le Chasselas est parfaitement idoine sous nos latitudes. Plusieurs raisons, c'est que le climat lui convient et surtout dans Chablais en particulier le terroir lui convient, on a un terroir pour le Chasselas. Si on devait le remplacer, ce qui sera peut-être le cas dans 50 ou 80 ans, ça sera très compliqué, mais on vit ce changement climatique en direct.
Il y a des vins très bons plus au sud qui pourraient s'adapter ici.
Si vous prenez les augmentations de température, je crois qu'un vin qui est cultivé à Bordeaux dans 10 ans pourrait être cultivé à Lille ou à Bruxelles. Donc on le vit tous les jours.
Les premiers vignobles en Scandinavie, en Angleterre.
Il y a des vins épatants en Angleterre. C'est quand même pas un pays qui est originellement favorable au vin.
Bon, il y aurait les Vermentino du Chablais alors.
Non, peut-être pas jusque-là. Moi, je serai plus de ce monde, bien heureusement.
Bon, on va se retrouver, hein, Philippe Jex, d'ici quelques instants pour la deuxième partie de cet entretien. On va parler de ce beau projet Grandeur Nature